Bonjour, donc Clément Pouponneau, je suis de la maison des sciences de l'homme de Dijon. Merci pour votre intervention. Et puis je trouve très intéressant cette approche quasi inactive en fait de développement durable et de la durabilité, avec cet ancrage vraiment du vivant dans une relation à la technique. Et du coup ça me rappelle aussi les thèses nouvelles de la technique comme anthropologiquement constitutive et constituante, où on perçoit effectivement la technique comme inscrite dans une lignée technique, et le développement de l'anthropos, enfin en tout cas de l'activité humaine, se fait en interrelation avec cette technique. Et du coup, la création de systèmes d'interaction où on met un objet intermédiaire, c'est-à-dire qu'on confronte finalement la pensée au monde matériel, et puis on essaie, par la production scientifique, d'arriver à produire du changement. Ce qu'on lit un peu dans l'histoire de la technique de Gilles, c'est que ça fonctionne bien quand il n'y a pas beaucoup de perturbations, c'est-à-dire quand la production scientifique arrive à créer de l'invention, et puis derrière on a des processus sociaux d'innovation. Ça se déroule plutôt bien. Par contre, quand il y a une force en présence qui est majoritaire, par exemple un modèle consumériste qui vient se mettre dans le système, et finalement on se rend compte que c'est plutôt une approche par l'innovation, et on va créer de l'innovation pour l'innovation, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une vraie évolution de l'invention et une vraie appropriation sociale de l'invention. Et ma question, c'était du coup, comment est-ce qu'on fait pour rendre légitimes ces systèmes d'interaction, c'est-à-dire quand on met autour d'une table des personnes qui produisent du savoir, donc des chercheurs par exemple, avec des citoyens, et puis avec à Dijon on fait ça par exemple, on met des constructeurs de matériel agricole avec des agriculteurs et puis avec des chercheurs, pour essayer justement de construire des modèles pour l'avenir. Et on se rend compte que là il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a des forces en présence un peu majoritaires, les constructeurs, pour le dire clairement, et du coup le système un peu inactif là, donc il est un peu perturbé. Comment on peut être vigilant, enfin comment on peut faire pour que l'utilisation de ces objets intermédiaires là dans la coopération soit pas déséquilibré par un intérêt autre que celui de dialoguer avec la technique et de construire vraiment de l'appropriation sociale.
J'ai envie de dire, c'est la dimension politique de la question qui a traité. Bon, si les choses sont en train de changer, bon, le monde agricole, enfin, le domaine agronomique agricole, il a fonctionné sur un espèce de mythe qui était à travers un discours puis Sébastien pendant 50 ans, qui a été donc l'augmentation de la productivité pour nourrir la population. C'est le modèle, hein, à bon marché, avec une amélioration de la productivité, pas forcément de la production, mais de la productivité, fondée après sur une transformation du rapport au travail et l'utilisation de la force de travail dans d'autres domaines, enfin l'amélioration des conditions de vie et de rémunération de la population agricole, à condition qu'une grande partie d'entre elles partent dans d'autres domaines d'activité. Bon, ça a été le modèle qui a marché en Europe, en Amérique du Nord, enfin qui a marché, oui, qui a échoué dans une reste partie du monde. Actuellement, il est quand même confronté à certains de ses coûts de production. Il est confronté à ses conséquences environnementales qui renvoient à des coûts que les économistes vont appeler externalités, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en compte dans les évaluations de productivité, mais qui sont payés par les États, enfin l'ensemble de la société. Et puis les questions sur l'alimentation. Et avec quand même que ce modèle a quand même failli à nourrir tout le monde, puisqu'il y a quand même encore 800 millions à 1 milliard de la population de la planète, dont 60% de paysans qui ne sont pas nourris à leur faim. Et de plus en plus, on voit arriver la malnutrition, c'est-à-dire des déséquilibres qui conduisent, en gros, pour caricaturer, à du surpoids, de l'obésité, à des maladies cardiométaboliques, maladies chroniques, qui sont liées à une alimentation suffisante en calories, mais le type de calories complètement déséquilibré par rapport au métabolisme humain tel qu'il s'est constitué au cours de 3 milliards d'années, 2 milliards. Donc les interrogations sur ce modèle, elles vont venir par là. Hein. Je ne sais pas ce que produiront plutôt les états généraux de l'alimentation, j'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que ça existe. C'est-à-dire qu'on va parler à l'agriculture à partir d'une des finalités de l'agriculture. Ce n'est pas la seule, mais qui est quand même de nourrir les gens. Sur l'environnement, je pense qu'il y a quand même une interpellation sérieuse sur une partie des grandes conventions, en particulier, bien sûr, puisque c'est celle qui tire les autres sur le changement climatique, mais donc 25 à 30% de la production de gaz à effet de serre, c'est le monde de l'agriculture au sens large. Je pense que les choses changeront si c'est bien pour ça qu'on disait aussi quel est le cadre du système dans lequel on pose, si on reste effectivement sur la productivité, si on commence à introduire moi j'aime pas ce mot-là parce qu'il se cache, mais des externalités, mais enfin les effets sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité, qui sont compensés par ailleurs, qui sont traités par ailleurs avec de l'argent. Les problèmes, alors, je veux dire, si on rentre dans l'alimentation, la nutrition et la santé, là, on peut aller très loin quand même, hein, parce que, je veux dire, ces questions de maladies chroniques, cardiométaboliques, cancer, diabète, c'est un coût social qui me permettrait de réviser quand même assez utilement la productivité par travailleur, quoi, et la rémunération par travailleur agricole. Je pense que ça ne changera que si on recadre, hein, c'est la question tout de suite du début, old frame, si on recadre comment la question se pose. Et si la question qui est traitée dans ces cénacles ou regroupements autour du machinisme, c'est encore améliorer la productivité du travail, actuellement, elle est variable de 1 à 300 ou 500 sur la planète, le travail agricole. 500 pour les pays de l'OCDE, 300 à 500, 4 tracteurs pour 100 hectares, et de l'autre côté, 0,1 tracteur pour 100 hectares. Si ça reste comme ça, voilà ce que ça donne. Si on repositionne ça autrement sur des questions de société, qui, à mon avis, sont de plus en plus posées, pour tout ce qui est environnemental, quand même, les conventions des Nations Unies, elles sont ce qu'elles sont, mais elles aident quand même, quoi. Je veux dire, on ne peut plus ignorer les successions de COP, quoi. Bon, voilà, même si ça ne fait pas tout et ça ne change pas le monde, ça donne un contexte, un cadre. Les questions d'alimentation et de sous-alimentation ou de mauvaise alimentation et les coûts que ça a aussi commencent aussi à être mis à l'agenda. Donc je pense que ça pourra changer que comme ça. C'est-à-dire de revoir, là on revient presque sur la philosophie gestionnaire, hein, quels sont les paramètres qui permettent et les critères sur lesquels on va suivre la progression de l'action. Et là, on s'en est choisi des qui s'ébranlent. Je ne sais pas si je réponds bien, mais
ça veut dire qu'il faut imposer l'orientation de la question qu'on pose.
Oui, il faut l'imposer, mais je pense que là, ils sont de plus en plus difficiles à éviter. Quoi.
Pas pour toutes les forces, quoi. Ça, c'est-à-dire que on discute avec l'agriculteur qui est en train d'essayer de chercher, je sais pas moi, des semoirs pour faire du semis direct, pas direct, voilà. Donc, il va faire l'effort d'aller en Amérique du Sud et trouver ça. Donc là, il va changer de point de vue, il va être en train de se poser de nouvelles questions. Quand on discute avec le fabricant de matériel, il n'a pas du tout envie de changer de point de vue pour le moment. En tout cas, ça ne s'impose toujours pas à lui. C'est-à-dire que il n'est pas arrivé à un point critique qu'il ferait changer de stratégie, quoi. Donc, si on élargit le système, en fait, si on regarde localement ou dans un territoire donné, il y a peut-être des... Là, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que les questions sont déjà en train de... Ouais, le point de vue est en train de changer, mais à une échelle large, qu'il ne perçoit pas encore. Et...
Le sursemis, ça commence à être, bon, je ne sais pas s'il faut rentrer dans le technique, mais bon, ça commence à être une ouverture vers d'autres façons de voir les choses. Bon. Quand les éleveurs de la Beauce sont en train de se poser la question et de faire des études pour amener l'eau de la Loire dans la Beauce, c'est qu'on est quand même... Alors même s'ils le prennent toujours sur le même mode de pensée, hein, la technique va résoudre les problèmes dans lesquels on est, là, on va pouvoir en discuter sérieusement quand même. Hein, de...
Si je peux me permettre...
Oui, il faut arrêter.
Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que vous nous dites là en disant il y a des questions qui s'imposent, d'une certaine manière, et... une construction des dispositifs tels que vous l'avez énoncé, d'intelligence collective, de où finalement on a un enchantement de ce qu'on appelait auparavant négociation ou ce qu'on pouvait appeler... Mais là, on a l'impression qu'il y a une contradiction entre une question qui évoluerait, qui serait prise en charge par les acteurs, et, etc., etc. Donc vous nous avez présenté ça sur le diaporama, là. Finalement, en évitant la question justement du poids et des asymétries de chacun des acteurs, là, on fait comme si tous les acteurs pouvaient parler à égalité avec les autres. Et là, dans ce que vous nous dites là, pour répondre à cette question des asymétries, vous nous dites, oui, mais il y a des questions qui s'imposent et les acteurs ne peuvent pas faire autrement que de s'y confronter.
Oui, la contradiction là, c'est les questions qui se mettent à l'agenda. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait changer de grain. Moi, ce que je raconte là, c'est quand même à d'autres niveaux d'organisation. Et c'est quand même à ces niveaux d'organisation que se font les dynamiques de changement actuellement. C'est pas... Peut-être que j'ai pas été clair là-dessus. Pour moi, les questions des conventions et puis des états généraux de l'alimentation, c'est l'agenda général. Ça, je disais comme exemple, l'irrigation de la Beauce à partir de l'eau de la Loire et d'un canal ou d'une canalisation à créer, ça va rencontrer cet agenda-là. Quoi, hein. Est-ce que de nos jours, bon, c'est Notre-Dame-des-Landes, quoi. Est-ce que de nos jours, on construit des trucs comme on l'aurait fait, comme on l'a fait dans les années 60, hein, en Provence et en Languedoc-Roussillon, avec les grandes ponts. Donc ça va rencontrer l'agenda. Ensuite, ces dispositifs-là, ils ne sont pas à ce niveau d'organisation-là, ils sont sur la retraduction local de ces choses-là. Et les choses, les processus de changement qui se mettent en place se réalisent à des échelles locales, autour justement d'un autre rapport à la gestion de l'eau. Et on a beaucoup de ces exemples-là proviennent de la littérature ou d'expériences sur la gestion collective de l'eau. Et de plus en plus aussi maintenant sur les questions d'alimentation et de relations villes des villes avec leur alimentation et leur arrière-pays. Il y a beaucoup de ce qu'on va appeler les systèmes agroalimentaires génèrent comme ça des dispositifs donc locaux. Hein. Bien sûr qu'il y aura des asymétries. Moi, je n'ai pas voulu les occulter, les asymétries. Mais les asymétries, elles reposent sur deux choses. Bon, les rapports de force locaux, si on peut dire. Tout le monde ne pèse pas de la même façon. Et une bonne partie... du travail et du travail de facilitation, c'est quand même de faire en sorte que ça n'empêche pas complètement tout échange et toute possibilité d'émergence justement des choses nouvelles. Et ces asymétries, elles vont aussi reposer quand même sur l'agenda général. Quoi. Et qu'à voir Notre-Dame-des-Landes, quoi. Je veux dire, les gens qui le défendent n'ont pas la même assise politique que quand on a commencé le projet il y a 50 ans. Et je pense pour cette histoire, je prends l'exemple de la Beauce parce que voilà, je l'ai rencontré récemment. Quoi. Je veux dire, on va pas vendre le canal de la Loire à la Beauce comme on a vendu le canal de la Durance à Marseille ou le Baronne. Quoi. Et là, l'agenda change quand même aussi les discours. Si on prend les exemples de tous les groupes autour des semences paysannes, c'est en train de changer. Quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de devenir écoutables. Il y a 30 ans, c'était de la résistance, de l'obscurantisme, c'était illégal, c'était nier la juste rémunération de l'invention. Bon, ça a complètement changé. C'est pas eux qui ont changé. C'est pas le bien fondé de leur discours. c'est le cadre qui donne de la valeur au discours des uns et des autres. Et alors, on a eu, Francis, et puis je pense qu'on va... on est impliqués ensemble dans un séminaire à Marseille. On a fait intervenir, pour prendre cet exemple-là, les nouvelles méthodes là, d'action sur le génome. Je pense que, justement, les nouvelles techniques de création, pour aller bref, de création de mutations artificiellement, qui permettent d'échapper à tout le discours sur les OGM, parce que c'est des mutations comme elles sont produites dans la nature, juste qu'on les accélère un petit peu, elles rencontrent, là, bille en tête, d'autres façons de dire les choses qui, à un certain niveau d'échelle d'organisation, sont aussi légitimes qu'elles, deviennent aussi légitimes qu'elles, à certains niveaux, je dis. Parce que, quand même, le discours sur le progrès, les désordres du progrès, parce que ce qu'on est capable de dire maintenant, c'est que ces gens qui veulent créer de la mutation comme ça, le problème, c'est que leur petit machin qui va choper des ADN ici pour les transformer en ARN et les déplacer, ils peuvent aussi faire des trucs ailleurs qu'on ne sait pas où c'est. Et voilà, tout ça commence à... Je pense, moi, qu'il y a une remise en le système de valeurs qui imposait certains types de discours dans ce domaine-là, se révise du fait de dynamiques sociales et politiques, nationales, européennes et internationales, certainement.